La pauvreté. L'État s'était fixé pour objectif de réduire d'un tiers la pauvreté en France au cours de la période 2007-2012. Objectif non atteint, la pauvreté, on le sait, est massive. Guillaume Malocher, chargé de mission au Centre d'analyse stratégique, entendait l'ancien commissariat au plan sous l'égide de Matignon.
L'État s'est fixé un objectif de réduction sur la législature 2007-2012 d'un tiers de la pauvreté. On s'aperçoit aujourd'hui, à travers les évaluations qui sont produites, notamment le rapport du gouvernement au Parlement sur le suivi de cet objectif de réduction d'un tiers de la pauvreté, qu'on est dans une dynamique qui n'est pas forcément très très favorable.
Qu'est-ce que la pauvreté ? Ne soyons pas cyniques, nous le savons ou bien nous nous en doutons. Moins de 954 euros par mois, de plus en plus de Français connaissent cette situation. Laurence Vinsotte, déléguée responsabilité sociétale GDF Suez.
On parle de précarité énergétique quand une personne consacre plus de 10% de son revenu à payer la facture énergétique. En France, on a plus de 3 millions de foyers qui sont dans cette situation.
GDF Suez, 40 millions de clients domestiques à travers le monde pour l'énergie et l'eau, à l'international donc. GDF Suez, qui à l'instar de toutes les grandes entreprises, connaît tous les cas de figure de consommateurs, en l'occurrence d'abonnés. GDF Suez a créé la plateforme EasyGaz.
Un exemple qui nous a beaucoup appris, c'est l'opération EasyGaz, qui s'appuie sur des associations de médiateurs qui vont au domicile des personnes qui habitent des logements dans des quartiers sensibles. Les médiateurs vont dans les domiciles pour sensibiliser à la sécurité des installations et aux économies d'énergie et d'eau. Et on a un taux d'entrée dans les logements de plus de 80%. C'est pour nous un très grand enseignement de la manière de toucher des clients en situation difficile, c'est-à-dire d'aller chez eux, de travailler sur la médiation sortante et la pédagogie pour les aider à aller vers les structures adaptées, par exemple, quand ils sont en difficulté.
Rapprochement d'un côté de l'État et des grandes entreprises, cela s'appelle la cohésion sociale. Guillaume Malocher.
Du côté des pouvoirs publics, c'est donc de se dire on continue à avoir une action sociale de manière traditionnelle, mais peut-être qu'en complément, et pas du tout en substitution, il faudrait faire appel à toutes les bonnes énergies, et notamment celles des entreprises, pour qu'elles deviennent les acteurs de la cohésion sociale, qu'elles peuvent être, qu'elles sont déjà pour une part, sans que la puissance publique ait forcément reconnu cet impact et ce rôle. Du coup, pour nous, il s'agit d'entrer dans une logique de facilitation pour les initiatives qui existent déjà, d'émergence pour les autres, et donc de trouver les leviers. En l'occurrence, c'est plutôt des mécanismes législatifs, des mécanismes fiscaux qui devraient être mobilisés et sur lesquels on travaille actuellement.
Rapprochement de l'autre côté des grandes entreprises avec le tissu associatif, celui-ci expert du terrain. L'exemple type, l'accord conclu entre Cofinoga dont le métier est de vendre du crédit à la consommation, et Crésus en Alsace, la fédération qui se bat pour empêcher les personnes de basculer avant qu'il ne soit trop tard. Jean-Louis Kiel, président de Crésus et fellow Ashoka.
L'idée était la suivante, c'est de dire à l'entreprise Cofinoga, vous vendez du crédit, c'est votre métier. Mais quand vous avez un client fragile, vous voyez que ça ne va pas. Généralement, vous fermez les yeux. Eh bien, envoyez-nous ces personnes dans la plateforme. On essaye d'être professionnel dans l'analyse budgétaire, pas faire de l'action sociale. C'est simplement de la construction économique et dire à tous les citoyens, vous êtes citoyens, prenez-vous en main également. Hein, parce que si on donne des conseils, par exemple, pour les courses, on a l'habitude de prendre le chariot et de tourner bêtement dans le magasin, de ramasser tout ce qu'on trouve. Et parfois, on a des choses en double. On propose aux gens de faire une liste des courses. C'est tout simple, c'est nos grands-mères qui le savaient. On n'a rien inventé avec cette plateforme. On travaille comme des fourmis anciennes, c'est-à-dire des fourmis qui étaient sages, qui savaient que le monde avance, mais aujourd'hui, tout va trop vite. Vous savez, les relations sociales, ça tombe au panier.
D'un côté, l'État donc qui se rapproche des grandes entreprises. De l'autre, les grandes entreprises qui recourent au travail de fourmis des associations. Le maillage intelligent commence à se tricoter. Exemple, GDF ne coupe jamais le gaz aux abonnés insolvables. Le gaz qui permet de prendre une douche chaude et de cuisiner. Autrement dit d'être à minima en état pour redémarrer. Mais reprenons la pyramide mondiale, telle la pyramide démographique. La base la plus large, le bas. L'essentiel de l'humanité est pauvre, la BOP, la Base of Pyramid donc. Olivia Vergelizighi, responsable du programme BOP à l'IMS Entreprendre pour la Cité.
C'est l'acronyme pour Base of the Pyramid. Donc, ce sont les populations à la base de la pyramide des richesses économiques. Donc, il y a différents débats sur les seuils. Certains disent que c'est les populations avec moins de 2 dollars par jour, d'autres 3, 4, 5. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça désigne les stratégies business qui sont nouvelles et qui s'adressent à ces populations dites pauvres, qui n'ont pas ou peu accès aux produits et services offerts par le marché. Alors, souvent, on a envie de dire c'est causé par la faiblesse de leurs revenus, mais finalement on s'aperçoit que c'est pas tant un problème dû aux clients qu'un problème généré par les systèmes économiques eux-mêmes. On le voit avec le phénomène de double pénalité, avec l'exemple de la téléphonie mobile où une carte prépayée va finalement coûter plus cher qu'un forfait auquel la population pauvre n'a pas forcément accès. Ça montre qu'au final ce sont plus les offres existantes qui sont à revoir plutôt que le client qui doit s'adapter à cette offre.
N'y a-t-il pas une aberration, voire, en employant un mot cynique, perte d'un gisement de consommateurs, tous ces consommateurs qu'est l'essentiel de l'humanité, en soi, une aberration économique. Parlez-en au plus cynique des profiteurs, il s'en évanouira d'horreur. Que faire ? Inverser la tendance, bien sûr. C'est le discours très juste qu'il a tenu dans son livre « Fortune of the Bottom », « La richesse du bas de la pyramide ». L'économiste indien Coimbram Prahalad, qui a longtemps tenu une chaire de management au Michigan face aux petits étudiants américains, donc Olivia Verger-Lizigi.
Et c'est une idée en fait qui a été mise en avant par Prahalad, qui est un professeur d'origine indienne qui a enseigné dans une business school américaine et qui a, dans son livre Fortune at the Bottom of the Pyramid, mis en avant qu'au final, nos systèmes économiques étaient pensés pour les 20% les plus aisés et qu'on mettait de côté 80% de la population mondiale, d'une clientèle qui était en capacité de payer, mais qui n'était pas considérée comme une cible parce que considérée pauvre, insolvable, alors qu'au final, cette population pauvre, c'est ce qu'il montre dans son livre avec différents exemples, est en capacité de payer quand elle a en face d'elle une offre qui est adaptée à ses besoins.
Si rien n'est simple, qui a dit que l'être humain était une fatalité ? Un problème se prend à la base, surtout quand cette base est l'être humain. Il n'y a de richesse que d'hommes. Décidément, cela est récurrent et a juste été un peu oublié.